Il y a certaines choses dont nous devrions tous nous inquiéter. Par exemple, si vous avez des enfants, vous devez sûrement vous préoccuper qu'ils reçoivent une bonne éducation, qu'ils fréquentent une bonne école et qu'ils aient des amis convenables. Et si vous avez des enfants, eh bien, il est tout à fait normal, en fait, que vous vous préoccupiez qu'ils ne développent pas un jour de dépendance face à la drogue, à l'alcool ou au jeu. Finalement, si ces choses ne vous concernent pas encore parce que vous n'êtes pas parent, eh bien, lorsque vous aurez votre premier enfant, vous devrez apprendre à devenir parent. Parce qu'on ne vient pas au monde parent. C'est vrai, ça, hein? On ne vient pas au monde parent. Et on ne sait pas ce que le Seigneur va nous donner non plus, hein? Voilà. Et vous allez commencer à économiser de l'argent pour les mauvais jours, et vous vous inquiéterez peut-être ensuite de savoir si vous toucherez suffisamment d'argent pour couvrir tous vos frais lorsque vous prendrez votre retraite. Il y a peut-être lieu d'être préoccupé, mais il n'y a jamais de raison de s'inquiéter. L'inquiétude est quelque chose qui ruine tellement la vie des gens que le Seigneur Jésus, le plus grand prédicateur de l'histoire, a cru bon de traiter de ce sujet dans le plus grand sermon qu'il ait jamais prêché. Il a pris de fond cette question sur l'inquiétude pour donner la solution la plus efficace que nous ayons jamais entendue pour nous débarrasser de cet état pénible dans lequel tant de gens sont plongés au quotidien. Je vous invite à tourner avec moi au chapitre 6 du livre de Matthieu, de l'Évangile de Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 34. Et dans une déclaration, pendant que vous tournez, dans une déclaration toute courte et très simple, Jésus va nous donner ce sage conseil au sujet de l'inquiétude. Voici ce qu'il dit au verset 34. « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Il y a des gens à 25 ans qui se préoccupent déjà. Ils s'inquiètent déjà combien ils vont gagner à leur pension 40 ans plus tard. Jésus dit, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Dans le Proverbe chapitre 12, l'auteur des Proverbes nous dit ceci au verset 25, « Que l'inquiétude dans le cœur de l'homme le déprime, mais une parole aimable le réconforte. » Je dois quand même avouer qu'il est beaucoup plus facile de parler aux gens comment ne pas s'inquiéter que de ne pas s'inquiéter. Il est beaucoup plus facile de parler de surmonter les inquiétudes que de les surmonter dans la réalité. Le conseil que Jésus nous donne ici fonctionne vraiment. Il vous permettra de cesser de vous inquiéter si vous décidez de mettre en pratique les conseils qu'il nous donne. Voici les trois étapes pour y arriver. Ils sont simples à appliquer et ça fonctionne. Premièrement, rappelez-vous tout ce que Dieu a fait pour vous dans le passé. Deutéronome chapitre 30, Deutéronome chapitre 31. On n'aura pas le temps de lire Deutéronome 30 et 31 ce matin, mais retenez, vous irez à la maison, vous relirez les chapitres 30 et 31. Comment, oui, 30 et 31. Et avant de regarder le sermon que Jésus a prêché, de parler de ce qu'il a dit, si vous faites partie de ceux et celles qui s'inquiètent facilement, j'aimerais vous amener à réfléchir sur la manière dont vous pouvez utiliser le passé en vous rappelant de ce que Dieu a fait pour vous aider à faire face au présent et à l'avenir. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un dans cette salle ce matin qui serait capable de dire ce que Dieu a fait dans le passé dans sa vie, qui l'aide maintenant pour aujourd'hui et pour le futur? Ben, je vais quand même vous en lancer une. Dieu m'a appris, moi, à détester le péché. Dieu m'a appris à détester le mensonge. Dieu m'a appris à marcher dans ses voies. Et quand je marche dans ses voies, sans restriction, je vois Dieu qui me bénit. Je vois Dieu qui me bénit aujourd'hui, qui me bénit demain. Dieu m'a fait des promesses. Et ces promesses, je les ai vues certaines s'accomplir dans ma vie. Frères et sœurs, ces promesses, je les ai lues dans le passé. Je les ai vues se réaliser dans le passé, je les ai vues se réaliser dernièrement, et je les vois se réaliser aussi aujourd'hui. C'est important de se rappeler de ce que Dieu a fait pour vous dans le passé, dans votre vie. Comment pouvez-vous utiliser hier pour vous aider à faire face à aujourd'hui et demain quand cela concerne l'inquiétude? Permettez-moi de vous poser une question au cas où vous vous inquiéteriez déjà pour ce qui vous attend demain, la semaine prochaine. Ou encore si vous vous inquiétez sur la façon dont vous allez réussir à payer la prochaine facture, ou l'appel
que vous attendez de votre médecin qui doit vous annoncer les résultats des différents examens que vous avez passés il y a une semaine. Permettez-moi de vous poser une simple question. Si vous êtes ici ce matin, est-ce que cela signifie que, peu importe ce sur quoi ou en quoi vous vous êtes inquiété dans le passé, et ce jusqu'à maintenant, vous avez réussi à vous en sortir? Vous êtes amen à ça. Vous avez vécu des expériences difficiles dans le passé. Vous avez pensé que vous vous en sortirez jamais. Et aujourd'hui, si vous êtes ici, je suis convaincu que si vous pouviez partager votre témoignage, vous seriez capable de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Déjà, vous étiez perdu, vous viviez sans Dieu, vous étiez dans la misère, vous baignez dans le péché. Dieu a entendu l'appel de votre cœur, et Dieu a permis que quelqu'un se place sur votre chemin pour vous parler de l'amour de Jésus-Christ. Amen. Oui, hein? Oui. On ne méritait rien, en fait. Hein? On ne méritait pas que Dieu place quelqu'un sur notre chemin. Hein? Des fois, on a de la difficulté à s'exprimer, à crier à Dieu, mais Dieu aussi entend l'appel de notre âme, et il va placer dans sa grâce quelqu'un sur notre chemin pour nous dire, écoute, voici la solution à ton problème. Moi, je t'aime, je te forcerai pas à l'accepter. C'est toi qui décides. J'ai différents niveaux dans la vie chrétienne que tu peux atteindre. Tu choisis le niveau où tu veux te rendre. Tout dépend de la sanctification. Tout dépend de ton obéissance. Mais Dieu, dans sa grâce, eh bien, nous aime tous, on le sait, nous aime tous d'un amour égal. Et Dieu veut nous faire grandir. Dieu veut faire un nettoyage en nos vies. Vous pouvez être un peu meurtri, voire même blessé. Vous pouvez être quelque part abattu, mais vous êtes toujours là et vous respirez toujours. Vous parlez toujours, vous entendez toujours ce message. Il n'y a qu'une seule façon d'expliquer pourquoi vous êtes toujours là. C'est parce que Dieu vous a gardé et Dieu vous a protégé jusqu'ici. J'aimerais maintenant que nous revenions à une conversation qui a eu lieu il y a environ 3000 ans entre Moïse et Dieu dans le livre du Deutéronome. C'est pour ça que je vous dis de lire le Deutéronome, le chapitre 1 et le chapitre 30 et 31. Lisez-le à la maison parce qu'il est possible que vous ne vous rappeliez pas nécessairement de ce qui se dit dans ces trois chapitres, mais permettez-moi de récapituler ce qui s'est passé. Moïse est maintenant âgé de 120 ans. Et il vient de terminer la tâche à laquelle Dieu l'avait appelé, celle de conduire son peuple dans le désert et dans la nature pendant plus de 40 ans. Plus de 2 millions de personnes, et ce, sans rencontrer une seule épicerie, sans posséder une seule carte de crédit, sans croiser un seul puits d'eau, et réussir à arriver à entrer dans la terre promise. Les Israélites sont contents car leur voyage est terminé. Ils pensent que leur problème est fini, mais il y a une surprise. Hein, ils se réjouissaient parce que ils pensaient aux 40 années d'errance qu'ils avaient vécues dans le désert. Ils se disent, ben, finalement, tout ça est derrière nous. Le bonheur nous attend en avant. Mais ils sont inquiets. Quand vous lisez le texte, ils sont inquiets. Pourquoi ils sont-ils inquiets? Parce qu'ils savent que ça sera pas facile, finalement. Ils sont inquiets parce qu'ils savent qu'il y a plusieurs peuples qui habitent déjà dans la terre promise que Dieu leur a donnée, et que ceux qui y habitent sont des vétérans de la guerre. Ce sont des guerriers. Ils savent se battre et ils ne vont ni quitter ni abandonner leur ville sans se battre. Moïse va encourager le peuple. Il va dire aux gens dans Deutéronome, chapitre 31, versets 6 à 8, « Soyez courageux et forts, ne tremblez pas de peur devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marchera lui-même avec vous, sans jamais vous délaisser, sans jamais vous abandonner. » Il dit ensuite au verset 8 à Josué qui va le remplacer, « Josué, sois courageux et fort, car l'Éternel marchera devant toi, il sera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, et il ne t'abandonnera point. N'aie donc pas peur, ne te laisse pas abattre. » Il va leur rappeler Moïse ce que le Seigneur a fait pour eux dans le passé. Frères et sœurs, c'est important de se rappeler ce que le Seigneur a fait pour nous dans le passé pour éviter qu'on retourne dans le monde. Il va leur rappeler les miracles qu'il a accomplis. Il va leur rappeler les 10 plaies d'Égypte. Il va leur rappeler qu'il a ouvert la mer Rouge. Il va leur rappeler qu'il les a sauvés de l'esclavage dans lequel ils étaient. Et frères et sœurs, l'Ancien Testament est là pour nous donner des exemples de ce que les gens ont vécu avant nous, pour que nous en tirions des leçons. Et il est bon de retourner souvent dans l'Ancien Testament parce que ceux qui ont vécu, ceux qui sont tombés, ceux qui ont pu se relever, ce sont des gens comme vous et moi. Et Moïse va continuer, pardon, il leur rappelle ce que le Seigneur a fait dans le passé. Dans Deutéronome chapitre 1, verset 30-31, il leur dit, « L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte, puis au désert. Et vous avez vu que l'Éternel, votre Dieu, vous a porté comme un homme porte son fils pendant toute la route que vous avez faite jusqu'à votre arrivée en ce lieu. » Qu'est-ce que Moïse est en train de faire ici, frères et sœurs? Il leur demande encore une fois de penser à ce que Dieu a fait pour eux dans le passé. Écoutez, cessez de vous inquiéter pour demain, oubliez même aujourd'hui et revenez hier. Pensez ce que Dieu a fait pour vous dans le passé, dit Moïse. Et dans Deutéronome, chapitre 15, verset 15, il dit ceci. Il leur rappelle de se souvenir qu'ils étaient des esclaves en Égypte et que l'Éternel, leur Dieu, les avait libérés. Il leur rappelle comment Dieu, je l'ai dit, j'ai pris de l'avance, mais je vais le rappeler. Il leur rappelle alors comment Dieu a séparé la mer Rouge et comment il a détruit l'armée égyptienne. Frères et sœurs, malgré qu'il va leur rappeler ça, trois jours après, qu'il va leur tourner. Et ils ont été 400 ans esclaves. Et trois jours après, ils commençaient à murmurer pour retourner en Égypte. Ils avaient oublié ce que Dieu avait fait dans leur vie passée. C'est vrai qu'on est des oublieux, hein. C'est ce que Jacques nous dit, hein. Nous sommes des auditeurs oublieux. Je dirais même que nos yeux oublient facilement ce qu'ils ont vu dans le passé. On se demande pourquoi il y a des gens, des fois, qui retournent dans le monde. C'est parce qu'ils ont oublié ce que Dieu a fait dans leur vie dans le passé. Et c'est bon de se rappeler continuellement ce que Dieu a fait dans votre vie dans le passé. Nous étions tous esclaves d'un péché quelconque. Et Dieu, par sa grâce et par sa puissance, nous a délivrés de ce qui nous maintenait esclaves, pour faire en sorte qu'on puisse le servir comme lui nous demande de le servir. Il leur rappelle que dans le désert, Dieu leur a donné la manne, ils l'avaient oublié. C'est-à-dire qu'il leur a donné du pain tous les matins, puis des cailles. Ils n'avaient même pas besoin de cuire le pain, ils n'avaient même pas besoin de tirer sur les cailles pour les prendre. Dieu les envoyait se jeter tout simplement dans leurs bras. Et Moïse va ajouter, pendant 40 ans, lorsque vous aviez besoin de manger, de boire ou de trouver un abri, Dieu n'est-il pas toujours intervenu pour vous aider à passer à travers au bon moment, de la bonne manière, et en agissant de façon à ce que vous obteniez le meilleur dans tout? En d'autres mots, la question de Moïse se résume à ceci. Si Dieu a pris soin de vous hier, ne pensez-vous pas que Dieu pourra prendre soin encore de vous aujourd'hui? C'est ça la question de Moïse. On a pu compter sur Dieu dans le passé. Est-ce qu'on peut encore compter sur Dieu aujourd'hui? C'est une question qui, non seulement que Moïse pose à son peuple, mais c'est aussi une question que Dieu nous pose aujourd'hui. Pour être capable de... Est-ce qu'on prend le temps de se rappeler en tant que chrétien ce que Dieu a fait pour nous dans le passé? À quelle place il est venu nous chercher? Même si nous étions nés dans l'Église, on devait quand même reconnaître qu'on était des pécheurs et on a dû quand même si on est né dans l'Église, se repentir. Mais pour ceux qui sont dans le monde, peut-être que c'est plus délicat, peut-être que c'est un peu plus difficile, mais est-ce qu'on se rappelle d'où Dieu est venu nous chercher dans le passé et ce qu'il a fait pour nous dans le passé? C'est une question à laquelle il vaut la peine de réfléchir. Si vous vous en souvenez 700 ans plus tard, Dieu va dire exactement la même chose à la nation d'Israël par l'intermédiaire du prophète Isaïe. Écoutez-moi, dit Isaïe, maison de Jacob, et vous tous, reste de la maison d'Israël. Écoutez bien maintenant ce qu'il va dire. Vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. En d'autres mots, mon Dieu dit, depuis le moment où tu as été conçu dans le ventre de ta mère, je t'ai pris en charge. Quand tu es sorti du ventre de ta mère, je prenais soin de toi. Tu ne serais même pas ici en ce moment si je n'avais pas pris soin de toi, si je ne prenais pas soin de toi. Quand tu ne savais même pas que j'existais, et que tu ne savais même pas que tu existais, je prenais soin déjà de toi. Et on peut continuer à lire Isaïe chapitre 46, verset 4, le verset suivant, parce que ça devient de plus en plus intéressant. Le Seigneur dit, « Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait, et je vais encore vous porter pour vous soutenir et pour vous sauver. » Quel grand Dieu on a, n'est-ce pas? Quel grand Dieu! Combien de fois il essaie de nous ramener, puis nous on tire de notre côté. Et le Seigneur, avec patience, il continue à nous traîner, à nous tirer, à prendre soin de nous. Dieu sera là à côté de vous à la fin de votre vie, au moment même de rendre votre dernier souffle, ça vous pouvez en être assuré. Il dit, écoute, avant ta naissance, je prenais soin de toi, maintenant que tu existes, que tu es en vie, je continue à prendre soin de toi. Et quand tu seras rendu à la fin de ta vie, je serai encore là pour prendre soin de toi. Frères et sœurs, à partir du moment où vous avez été conçu dans le ventre de votre mère, jusqu'au moment où vous allez rendre votre dernier souffle et que vous allez mourir, Dieu était là hier, Dieu est là aujourd'hui, et Dieu sera là toujours pour vous, pour prendre soin de vous. Si nous jetons un regard en arrière à un moment particulier de notre vie, nous pourrons voir non seulement comment Dieu est intervenu dans une situation donnée de notre vie, mais jusqu'à quel point aussi il nous a protégés dans cette situation. Si vous sentez que vous avez une armée égyptienne derrière vous ce matin, et une mer rouge devant vous que vous tremblez, la première chose que je vous suggérerais de faire, c'est la suivante. Prenez un temps pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Faites juste vous rappeler jusqu'à quel point Dieu était fidèle dans le passé et réalisez jusqu'à quel point il sera fidèle dans le présent et dans le futur, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur est bon, sa bonté dure pour toujours et il reste fidèle de génération en génération, nous dit le psalmiste. Comment alors nous débarrasser de l'inquiétude? Comment gérez-vous l'inquiétude au quotidien? Et comment pouvez-vous vaincre l'inquiétude? Premièrement, remerciez Dieu pour ce qu'il a fait pour vous dans le passé. Pensez à toutes les choses qu'il a déjà faites hier pour vous prouver qu'il vous suivait pas à pas. Et deuxièmement, comme vous avez fait confiance à Dieu hier, continuez à faire confiance à Dieu pour aujourd'hui. Amen. Remerciez Dieu pour hier et faites confiance à Dieu pour aujourd'hui. Je vous invite maintenant à revenir dans notre texte de base, dans Matthieu chapitre 6, dans ce sermon fantastique où Jésus traite du sujet de l'inquiétude. Et Jésus, même s'il était 100% Dieu, dans son 100% homme, il a vécu des craintes, il a vécu des peurs, il a vécu ce que vous ressentez ce matin. Et il était capable de se mettre à notre place. Et connaissant la nature humaine, connaissant l'homme et la femme, il va pondre ce message qui est extraordinaire. On appelle ça le plus grand message qui a jamais été prêché dans le monde. Et bien, d'une simplicité incroyable, Dieu qui se fait homme, qui s'abaisse au niveau de sa créature, qui utilise le langage de sa créature pour être en mesure qu'elle puisse le comprendre. Et vous regardez les mots qu'il utilise, ça prend pas un théologien pour commencer à interpréter le message que Jésus va donner. C'est un message qui atteint le cœur des gens. L'inquiétude. On est tous inquiets à un moment donné dans notre vie de quelque chose. Il y a des femmes, avant de voir leur petit venir au monde, ils s'inquiètent pour savoir s'il va être complet, s'il n'y aura pas un problème, s'il ne sera pas handicapé, malgré toutes les mesures que la science prend aujourd'hui. On est inquiet de perdre notre travail. Il y a une restructuration. On est inquiet. Ça arrive toujours à différents degrés qu'il y a une inquiétude dans notre vie. Et Jésus dit à ses enfants, écoutez, je vais vous donner un secret. Et il commence son message dans Matthieu. Et il va lire, je vais vous lire trois versets où vous te demande, en vous demandant d'écouter attentivement ce que Jésus va répéter à trois reprises dans chacun de ces versets. D'abord au verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni de votre corps, pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Lisons maintenant le deuxième verset, le verset 31. Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Passons maintenant au troisième et dernier verset, le verset 34. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Chaque jour suffit sa peine. Jésus le dit à trois reprises, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Il est important de bien comprendre que lorsque Jésus parle d'inquiétude, il ne parle pas évidemment d'hier, car hier est passé, il parle d'aujourd'hui et il parle de demain. Voilà pourquoi l'inquiétude concerne toujours aujourd'hui et demain. Vous ne pouvez pas vous inquiéter pour hier, car hier est déjà passé. À moins que vous ayez fait un mauvais coup et que là vous avez peur des conséquences et que vous n'êtes pas tranquille. Mais en principe, quelqu'un qui vit une vie normale, eh bien, ne devrait pas avoir peur pour hier puisque c'est déjà passé. En principe, ça ne devrait pas revenir. Alors, quand vous vous inquiétez pour aujourd'hui et pour demain. Et quand vous vous inquiétez, de quoi vous inquiétez-vous, frères et sœurs? Fermez les yeux, là, 10 secondes, et dites, de quoi je m'inquiète, finalement? C'est quoi ma plus grande inquiétude? Essayez de réfléchir à ça. C'est quoi ma plus grande inquiétude dans ma vie? C'est quoi votre plus grande inquiétude dans votre vie? D'avoir un cancer? De perdre un enfant? C'est quoi la plus grande inquiétude dans votre vie? Quand vous vous inquiétez pour aujourd'hui et demain, et quand vous vous inquiétez, encore une fois, de quoi vous inquiétez-vous? Vous êtes inquiet aujourd'hui de ce qui va se passer demain, c'est toujours comme ça que ça marche. Vous vous inquiétez aujourd'hui de ce qui risque de se passer demain, c'est pourquoi Jésus dit, écoutez, vous devez prendre soin aujourd'hui de vous, vous devez prendre soin d'aujourd'hui avant de pouvoir prendre soin de demain. C'est pourquoi il ajoute ceci au verset 34, Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. En d'autres mots, Jésus est en train de dire ceci. Écoutez, le seul jour où je peux prendre soin de vous, c'est aujourd'hui. Comment est-ce que je peux alors être en mesure de pouvoir compter sur Dieu juste pour aujourd'hui? Je peux pas m'inquiéter pour hier, c'est passé. Pourquoi devrais-je m'inquiéter pour demain, car demain n'est pas encore là, et rien ne me dit pourquoi je devrais m'inquiéter pour demain, et savoir aussi si je serai en vie demain. De plus, la question est donc la suivante. Comment puis-je faire confiance à Dieu juste pour aujourd'hui? Frères et sœurs, le Seigneur Jésus va faire quelque chose auquel je n'aurais jamais pensé, et auquel personne n'aurait pensé, y compris les philosophes, les scientifiques les plus brillants, ainsi que les hommes les plus éminents de la planète. Il va utiliser deux petites illustrations qui vont me jeter par cœur et qui vont me jeter par terre pour prouver que nous pouvons tous compter sur Dieu aujourd'hui. Maintenant, avant de regarder ces deux illustrations, j'aimerais vous rappeler que vous et moi pouvons faire quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Vous vous dites peut-être, mais qu'est-ce que le pasteur vient de dire là? Je répète, vous et moi, eh bien, nous pouvons faire quelque chose que Dieu ne peut pas faire. Vous et moi, nous pouvons briser une promesse, mais Dieu ne peut pas la briser. Vous et moi, nous pouvons mentir, mais Dieu ne peut pas mentir. Vous et moi pouvons faire une promesse que nous ne pouvons pas tenir, mais Dieu peut la tenir. Et Jésus nous dit que nous pouvons simplement regarder par la fenêtre pour trouver des preuves. Comment Dieu promet de prendre soin de nous aujourd'hui et que nous n'avons aucune raison de douter. Jésus va donc prendre un premier exemple. Regardez au verset 26. Regardez les oiseaux du ciel. Il prend un cheval, hein, c'est plus visible. Hein. Il prend un oiseau. Un bête oiseau. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas plus qu'eux? C'est comme si Jésus voulait qu'on se pose la question suivante, frères et sœurs. Avez-vous déjà vu un oiseau s'inquiéter parce qu'il n'était pas certain de manger aujourd'hui? Saviez-vous qu'il n'y a jamais eu un oiseau dans l'histoire de la médecine qui a été traité parce qu'il faisait de l'hypertension? Savez-vous qu'on n'a pas encore vu un oiseau qui avait besoin d'être suivi pour faire contrôler sa tension artérielle? Savez-vous que les oiseaux n'ont jamais été victimes d'un accident cardiovasculaire ni d'un AVC? Ce que Jésus est en train de dire, c'est que si les oiseaux ne s'inquiètent pas, à combien plus forte raison, vous qui êtes plus précieux à mes yeux, vous ne devriez jamais vous inquiéter. Et Jésus de dire, si Dieu prend soin des oiseaux, ne pensez-vous pas qu'il prendra soin de vous? Peut-être que vous n'aimez pas l'exemple des oiseaux. Peut-être que vous n'êtes pas toujours pas satisfait de l'explication fournie par Jésus, ou que vous n'êtes pas toujours convaincu. Jésus dit, d'accord, ça passe pas avec les oiseaux, essayons avec les fleurs. Verset 28 à 30, regardez ce qui est écrit. Regardez ce qu'il dit. Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon, même dans toute sa gloire, n'a jamais été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui, et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Je vous ai demandé il y a quelques instants si vous aviez déjà vu un oiseau inquiet. Permettez-moi de vous poser la question suivante. Avez-vous déjà vu une fleur transpirer de peur? Je veux dire, avez-vous déjà vu une fleur trembler parce qu'elle avait peur? Avez-vous déjà vu une fleur prendre le téléphone et appeler le 112? En fait, si vous regardez par la fenêtre, que ce soit des tulipes, des roses ou des lys, cela n'a pas d'importance. Vous ne les verrez jamais faire les 100 pas en signe d'impatience. C'est la manière de Dieu de nous dire, prenez le temps de réfléchir à ceci. Je vous nourris et je vous habille comme je nourris les oiseaux et comme j'habille l'herbe des champs. Étant donné que vous êtes plus précieux à mes yeux que les oiseaux et les fleurs, vous devriez comprendre que je vous donnerai tout ce dont vous avez besoin pour vivre. Autrement dit, prenez tout ce qui vous inquiète maintenant et donnez-le à Dieu. Essayez juste de réaliser jusqu'à quel point Dieu a pris soin de vous dans votre passé et jusqu'à quel point Dieu prend soin de vous aujourd'hui. Essayez de réaliser non seulement que Dieu vous soutient, mais que Dieu peut mettre fin à tout ce qui vous inquiète. Prenez le temps de réfléchir. Il s'est occupé de vous hier, n'est-ce pas? Eh bien, s'il s'est occupé de vous dans le passé, il n'y a pas de raison de penser qu'il ne s'occupera pas de vous dans aujourd'hui. Prenez le temps de méditer là-dessus, frères et sœurs. Prenez le temps de jeter un regard en arrière et pensez toutes les fois où Dieu est intervenu, pardon pour vous, et vous constaterez qu'il a un taux de réussite de 100%. Il n'échoue jamais. Ensuite, adressez-vous à Dieu pour aujourd'hui, car aujourd'hui est le seul jour que vous êtes appelé à gérer. Vous vous inquiétez pour demain, pourtant vous ne pouvez que gérer la journée d'aujourd'hui. Faites donc ce qui est logique de faire pour aujourd'hui. Tournez-vous vers Dieu pour aujourd'hui et remerciez-le de prendre soin de vous. Frères et sœurs, si je peux remercier Dieu pour hier, et si je peux me tourner vers Dieu pour aujourd'hui, n'est-il pas logique de croire que je puisse faire confiance à Dieu pour demain? Si je peux remercier Dieu pour hier, et si je peux me tourner vers Dieu pour aujourd'hui, est-il logique de croire que Dieu est digne de confiance pour demain? Demain, frères et sœurs, où serez-vous demain? Écoutez maintenant ce que Jésus va dire pour terminer en beauté cette partie de son sermon. Il dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. » Quelles sont ces choses, frères et sœurs? Quelles sont ces choses? Eh bien, par rapport au message que Jésus est en train de donner, eh bien, on n'est pas obligé de commencer à monter au troisième étage pour essayer de découvrir quelles sont ces choses. Ce sont des choses normales que nous avons besoin, la nourriture, les vêtements, le logement, peu importe quels puissent être vos besoins, toutes ces choses vous seront données en plus, dit Jésus, ou par-dessus tout, dit le texte grec. Par conséquent, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, dit Jésus, car le lendemain aura soin de lui-même, à chaque jour suffit sa peine. Je vais maintenant vous donner l'antidote contre l'inquiétude. Si j'étais médecin, est-ce que vous permettez que j'enlève mon... Oui. Si j'étais médecin, voici ce que je vous dirais. Voici ma prescription et vous n'avez pas besoin d'aller à la pharmacie pour l'obtenir. Je vous la donne tout de suite. Voici la prescription pour guérir de l'inquiétude. Là, vous allez avoir de la difficulté à la comprendre, mais on va faire un petit bout de chemin ensemble. Il suffit de remplacer l'inquiétude par l'adoration. Il suffit de remplacer l'inquiétude par l'adoration. Voilà la solution. Voilà la solution prônée par Jésus. Remplacer l'inquiétude par l'adoration. C'est pour ça qu'il nous demande toujours, dans cet examen, il ramène les gens toujours à Dieu, toujours à Dieu. Jésus dit, cherchez d'abord le royaume. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que si vous cherchez la vie juste que Dieu vous demande de vivre, vous allez vous concentrer sur les promesses de Dieu parce que vous allez les voir se réaliser dans vos propres vies. Et vous allez chanter des chants d'adoration qui vont monter au trône de la grâce de Dieu. Vous allez chanter des chants d'action de grâce parce que vous allez le remercier pour avoir fait ce qu'il fait dans vos vies au quotidien. Cela nous amènera à adorer le Dieu qui vous a créé, le Dieu qui vous aime, le Dieu qui prend soin de vous, le Dieu qui peut tout gérer pour vous. Que va-t-il se passer alors? Le fantôme de l'inquiétude va disparaître. Frères et sœurs, vous pouvez pas adorer Dieu puis vous inquiéter en même temps. C'est impossible. Vous devez choisir. Surtout les hommes, il est très difficile d'avoir deux pensées en même temps. Donc, soit que vous continuez à vous inquiéter, vous rongez les ongles, vous faites du mauvais sang, ou soit vous dites, Seigneur là, attends un peu, faut que je revienne un peu dans le passé, parce que je suis en train de me déconnecter de toi, je veux revenir dans le passé, et je veux te louer, je veux te rendre grâce pour tout ce que tu fais d'abord dans le passé. L'inquiétude, elle commence à s'évaporer tranquillement. Ouais. Seigneur, comme tu es venu en aide dans le passé pour moi, dans telle situation, j'ai l'impression que je suis en train de vivre la même. Seigneur, je continue à placer ma confiance en toi pour que tu me libères à nouveau, que tu me bénisses à nouveau comme tu l'as fait aujourd'hui, comme tu l'as fait dans le passé pour moi. Et vous allez voir que l'inquiétude va devenir beaucoup moins grande. Et si vous l'avez encore dans le bord de l'oreille, continuez à louer le Seigneur pour ce qu'il a fait pour vous dans votre vie. Seigneur, tu sais, tu le vois encore aujourd'hui, il y a des gens qui me veulent du mal, mais Seigneur, ça s'est déjà arrivé dans le passé aussi. Et Seigneur, j'ai crié et tu es venu à mon secours, tu as répondu à mon appel, Seigneur. Et je sais qu'aujourd'hui, si je crie encore au secours, Seigneur, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, Seigneur, et tu vas venir à mon secours. Et là, on loue le Seigneur, on adore le Seigneur. Et là, on a vraiment l'impression qu'on n'est pas en train d'adorer un Dieu qui est mort, mais un Dieu qui est vivant. Parce que se rappeler de lui au passé, se rappeler de lui qui peut faire la même chose au présent, ça veut dire qu'il est toujours vivant dans votre vie et qu'il est toujours vivant dans ma vie. Amen! Et l'inquiétude, ça sert à quoi? C'est un outil que le diable utilise en ses mains pour nous faire oublier les bénédictions que Dieu en réserve pour chacun de nous, pour nous faire oublier la grâce que Dieu en réserve pour la journée d'aujourd'hui. C'est pas de nous faire oublier la grâce de demain. Demain, on sait pas si on va être là. Et Dieu nous donnera pas la grâce de demain pour aujourd'hui. La grâce qu'il en réserve pour nous demain, il la garde pour demain. C'est à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour, nous avons une portion de grâce que Dieu nous réserve, que Dieu vous réserve. Et la portion de grâce qu'il vous réserve pour aujourd'hui, si vous la prenez pas, vous l'aurez pas demain, elle est passée. Voilà pourquoi on a besoin de mettre l'inquiétude de côté. Si on se lève, on est inquiet. Déjà en partant, c'est très difficile de lire notre Bible, on a nos pensées s'évaporent ailleurs, s'évadent ailleurs. Comment voulez-vous qu'on prie? Comment voulez-vous qu'on chante les louanges au Seigneur? C'est impossible. Alors on doit saisir, on doit bien voir que l'inquiétude, ça ne vient pas de Dieu, mais ça vient du malin qui veut nous empêcher de faire ce que Dieu nous demande de faire, c'est-à-dire prendre un temps dans la parole le matin, méditer les Écritures et chanter les louanges au Seigneur pour la journée qui est en train de nous préparer et être capable de dire, malgré tout ce que nous vivons, « Seigneur, je sais que tu ne me décevras jamais. » Tu es capable de dire « Amen » à ça ce matin? Est-ce que Dieu vous a déjà déçu? Peut-être qu'il ne vous a pas donné ce que vous vouliez parce que c'était pas sa volonté. Peut-être qu'il ne vous a pas donné ce que vous vouliez parce qu'au lieu de vous faire bénir, ça vous aurait peut-être fait énorgueillir. Mais Dieu vous a jamais déçu. Jamais. Je suis incapable de dire en 35 ans de vie chrétienne que Dieu a manqué à sa parole envers moi. Que Dieu n'a jamais tenu ses promesses envers moi. Jamais. Jamais. Je suis incapable devant vous ce matin de dire que Dieu est un menteur. Dieu ne m'a jamais menti. Jamais. Ce qu'il a promis, il l'a accompli. Et ce qu'il a promis pour le futur, il va aussi l'accomplir. Jésus revient bientôt. J'espère que c'est votre espérance dans votre cœur. Hier est parti, vous ne pouvez pas le changer. Demain demeure dans le domaine du peut-être et vous ne pouvez encore rien faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est vivre dans le présent. C'est pourquoi j'aime bien cette définition concernant l'inquiétude. Écoutez bien, c'est celle que je préfère. L'inquiétude est l'intérêt que nous payons à l'avance aujourd'hui pour des ennuis qui pourraient ne jamais arriver demain. L'inquiétude est l'intérêt que nous payons à l'avance aujourd'hui pour des ennuis qui pourrait ne jamais arriver demain. Et c'est vrai. Zig Ziglar, un conférencier fort connu aux États-Unis, a dit ceci. 90% des choses qui m'inquiétaient pour ma vie ne se sont jamais produites. 90%. Et c'est vrai. L'inquiétude, c'est l'intérêt que nous payons à l'avance aujourd'hui pour des ennuis qui pourraient ne jamais nous arriver demain. Il y a des gens qui se lèvent inquiets. Ils sont en bonne santé et ils s'inquiètent déjà pour voir s'ils vont terminer la journée en bonne santé. J'en connais. Comment peut-on se concentrer sur le Seigneur qui tient notre destinée entre les mains quand on part avec ça le matin? C'est difficile. Frère, c'est ça, non seulement vous ne pouvez pas prédire l'avenir, mais vous ne savez même pas qu'il y aura un avenir, s'il y aura un avenir ou non. Donc, la première chose que vous devez faire, si vous devez composer avec l'inquiétude, c'est vous rappeler que demain n'est pas encore là, et que vous devez vivre ce qu'aujourd'hui vous réserve, et mettre de côté la journée de demain jusqu'à demain, parce qu'à chaque jour suffit sa peine, dit Jésus. Quand demain apparaîtra, Dieu a déjà promis de vous donner la force dont vous aurez besoin. Il a déjà promis de vous donner la portion de grâce dont vous aurez besoin pour demain. Il a déjà promis de vous donner la sagesse dont vous aurez besoin pour demain. Il a déjà promis de vous donner toute la grâce et toutes les forces dont vous allez avoir besoin pour affronter cette journée. Frères et sœurs, la raison pour laquelle le calendrier attribue à chaque jour un numéro, c'est parce que vous êtes censé les vivre dans l'ordre, pas dans le désordre, comme Dieu les a rangés. Disons que quelque chose vous vient en tête et que le démon de l'inquiétude sème le doute dans votre cœur. Par exemple, le médecin vous annonce que vous avez une tache sur vos poumons, ou à votre travail, une rumeur circule qu'il va avoir une restructuration, ou encore que votre conjoint a des doutes concernant le futur de votre mariage. Comment réagiriez-vous? Que feriez-vous, frères et sœurs? Il y a une possibilité que vous ayez un cancer. Il y a une possibilité que vous perdiez votre emploi et votre navire risque de traverser une tempête de difficultés conjugales. Qu'allez-vous faire? Que pouvez-vous faire? Frères et sœurs, quand on comprend pas ce principe-là, il arrive que le Seigneur va pousser le bouchon un peu plus loin pour nous amener à réaliser et à avouer qu'on ne peut rien faire dans telle situation que de s'en remettre entre les mains de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Et c'est ce que Dieu veut. Frères et sœurs, est-ce que votre vie chrétienne est stimulante? Est-ce que vous êtes plus heureux depuis que vous êtes chrétien que quand vous étiez dans le monde? Avez-vous plus le sourire en tant que chrétien que quand vous étiez dans le monde? Êtes-vous en train de combattre les mêmes démons que vous aviez avant aujourd'hui? Est-ce que Dieu, dans le passé, vous en avait pas délivré? Est-ce que Dieu, qui vous en a délivré dans le passé, n'est pas capable de vous en délivrer aujourd'hui? Et si vous rechutez demain, est-ce que Dieu n'est pas capable de vous libérer aussi demain? Frères et sœurs, dans quelles conditions vivez-vous votre vie chrétienne? Est-ce que vous faites tout durant la journée et quand il vous reste du temps, vous le consacrez à Dieu? Je ne serai pas un hérétique, je vais vous dire honnêtement que si Dieu passe deuxième dans votre vie, vous n'aurez pas de bénédiction. Dieu est un Dieu jaloux. Il exige d'être le premier dans votre vie en toute chose. Il exigeait hier, il exige maintenant, et il va l'exiger dans le futur aussi. Si vous avez un doute que vous pourriez avoir un cancer, un problème avec une restructuration d'entreprise, un problème dans votre vie conjugale parce que votre conjoint décide de vous abandonner, vous allez choisir de faire une des deux choses suivantes. D'ailleurs, c'est toujours ce que nous faisons. Premièrement, soit que vous allez apporter toutes ces mauvaises nouvelles dans un bol qui s'appelle inquiétude. Vous allez commencer par remuer le tout, ensuite brasser le tout et finir par manger des petites bouchées, une après l'autre, jusqu'à vous rendre malade. Pire encore, même si ça vous a rendu malade, vous allez continuer à en manger un peu plus, en sachant que vous allez vous retrouver noyé dans un océan de dépression, de défaite et de découragement. Est-ce que cela va faire disparaître votre problème? Absolument pas. C'est ça qui est pire. Non. Est-ce que cela va vous amener à vous sentir mieux? Non! Mais vous pouvez opter pour la deuxième solution. Ou vous pouvez choisir qui s'offre à vous, et c'est celle de remettre tout cela entre les mains de Dieu en disant, « Seigneur, je ne peux pas gérer ça. Toi, gère-le. Seigneur, je ne peux pas m'en occuper. Occupe-toi-en. » Frères et sœurs, vous pouvez prendre votre souci et vous pouvez le transformer en parole d'adoration en vous rappelant ce que Dieu a fait hier et en lui remettant tout entre ses mains aujourd'hui. Permettez-moi de vous montrer quelque chose. Bon, là, je vais me pencher. Ce ballon de basket, vous avez eu, hein? Je vous ai envoyé un mail hier, non? Merci d'avoir répondu. Ce ballon de basket, je sais pas, Boris, 40 euros? Eh bien, le ballon que je tiens dans mes mains, entre les mains de Stephen Curry, qui joue pour les Warriors de Golden State aux États-Unis, ce ballon qui vaut à peu près 40 euros dans mes mains, vaut, quand il le tient dans ses mains, vaut 33 millions d'euros par année. C'est ce qu'on lui paye pour tenir un ballon dans ses mains, c'est ce que son club lui paye pour tenir un ballon dans ses mains. Moi, entre mes mains, bien, c'est un vulgaire ballon qui vaut pas plus que 30 euros. Et si je vous demandais de m'en donner 10 pour, vous diriez non, je vais m'en acheter un neuf. Mais pour Stephen Curry, quand il touche au ballon, le propriétaire, il dit, ce ballon m'a coûté 30 millions pour l'année. Regardez bien ce que je vais en venir. Cette balle de baseball que je tiens dans mes mains vaut environ 10 euros. Dans les mains du lanceur Clayton Kershaw, qui lance aujourd'hui pour les Dodgers de Los Angeles, cette balle, elle vaut 35 millions par année. Il lance à peu près 40 fois dans une année. Divisé 35 millions d'euros par 40 fois, ça vous donne une idée. Il est presque payé 1 million à chaque fois qu'il lance un match, 1 million pour lancer. Dans ma main, ça ne vaut pas plus que 10 euros, et vous ne me donneriez sûrement pas 35 millions pour que je lance pour vous si ça devient un club de baseball. Ce ballon de foot, j'en ai pris un qui était un peu plus gonflé que celui qu'on m'a donné hier. Dans mes mains, il vaut à peu près, moi, je vais baisser la cote, hein, quand même. Boris, 10 euros, 15 euros? Bon, il vaut à peu près 15 euros. Dans les mains de Lionel Messi, il vaut à peu près 74 millions par année. Quand Lionel Messi prend un ballon dans ses mains, Le propriétaire, il dit, ce ballon-là vient de me coûter 74 euros, il est mieux de porter des bulles. Ce bâton de baseball que je tiens dans mes mains coûte à peu près 30 euros. Dans les mains de Barry Bonds, qui a frappé 762 circuits dans la Ligue nationale de baseball, il vaut 40 millions d'euros par année. Pour moi, il ne vaut pas grand-chose. Il vaut, je peux vous faire peur, mais il ne vaut pas grand-chose. Ces trois clous que je tiens dans mes mains ne valent rien et je ne peux rien construire avec ces clous. Mais dans les mains de Jésus, ces clous peuvent apporter le salut à tous ceux qui veulent bien le recevoir. Vous voyez, toutes ces choses que je viens de vous montrer, soit qu'elles ne valent rien ou qu'elles ont une grande valeur, tout dépend dans quelle main elles se trouvent. Vous pouvez prendre chaque inquiétude, chaque anxiété, chaque peur, chaque tempête dans laquelle vous êtes empêtré, et vous pouvez toutes les déposer dans les mains de Dieu, car ces mains sont non seulement assez grandes pour toutes les prendre, mais sont suffisamment sûres et fortes pour les tenir. Et quand vous prenez votre inquiétude et que vous la transformez en parole d'adoration, vous voyez alors Dieu prendre vos problèmes, les transporter au point de faire renaître la paix dans votre cœur. N'a-t-il pas dit, « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Il est notre Dieu. Vous lui appartenez et il promet de prendre constamment soin de vous et de moi. Il ne nous a pas créés pour nous voir misérables. Il n'a pas sacrifié son Fils, frères et sœurs, pour nous laisser périr. Il n'a pas pardonné nos péchés et les miens pour nous laisser mourir loin de lui. Bien au contraire, vous seriez étonnés de savoir à quel point Dieu vous aime et jusqu'à quel point il veut vous bénir. Même si nous ne comprenons pas toujours pourquoi il permet telle et telle situation, nous avons l'assurance que jamais il ne nous abandonnera, parce que c'est ce qu'il promet. Dans les moments difficiles, nous n'avons rien à craindre, car il veille sur nous comme un père aimant veillant sur ses enfants. Quand l'inquiétude nous gagne, nous pouvons rester en paix, nous ne sommes pas livrés à lui-même. Il est un père qui prend soin de ses enfants, l'Éternel. Psaume 94, 14. L'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. Vous êtes son héritage à travers ce que Jésus accomplit sur la croix. Vous êtes son héritage. Nous sommes des héritiers, dit l'apôtre Paul. Et nous avons hérité de tout ce que Dieu a donné à Jésus. Nous sommes co-héritiers, réalisez-vous ça. Le Seigneur n'était pas obligé de nous donner quoi que ce soit. Dire, écoute, tu ne méritais même pas d'être sauvé, j'ai déjà fait ça, demande-moi pas rien après. Non. En plus, il en rajoute une couche, tout ce que Jésus a reçu du Père, Dieu nous dit, c'est à vous. Et j'aime bien parce que c'était dans le livre Apocalypse cette semaine, eh bien Dieu dit que nous allons régner avec Jésus sur cette nouvelle terre et ses nouveaux cieux. Je l'ai déjà démontré, mais Jésus est sur son trône. C'est ce que la Bible nous dit. Dans la nouvelle Jérusalem, c'est Jésus qui est là. Puisqu'on va le voir. Et Jésus qui se lève dit, allez, viens partager mon trône. Mais frère, c'est ça, qui on est, nous? Allez voir le roi Philippe, demandez-lui de prêter son trône. Même pour prendre une photo. D'abord, vous ne franchirez jamais les grilles. Et vous allez passer pour un beau navet, quoi. Mais le Seigneur, lui qui est le Seigneur de l'univers, nous dit, je t'aime tellement que je suis prêt à partager mon trône avec toi. Si on est dans la Nouvelle Jérusalem, tu vas régner avec moi. Sur les nations, il est bien écrit. Sur la Nouvelle Terre, les nations. Les nations viendront dans la Nouvelle Jérusalem, ils devront quitter le soir. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y a pas de nuit parce que la gloire de Jésus va éclairer toute la nouvelle ville. Frères et sœurs, on est appelés à passer l'éternité dans cette ville avec le Seigneur. Pas pour se tourner les pouces pendant toute l'éternité, pour régner avec lui. Le mot régner veut dire, c'est un verbe d'action. Donc, on va participer à quelque chose avec le Seigneur. Et maintenant, c'est une question de foi, donc il n'a pas cru bon de nous révéler ce que nous allons faire. Mais c'est une question de foi, parce que s'il avait révélé, on n'aurait pas besoin de la foi. Mais par la foi, on croit que ce que Dieu nous dit, nous allons régner avec Jésus sur cette nouvelle terre et ses nouveaux cieux. Quel grand Dieu nous avons! Et qu'est-ce que le diable veut faire? Nous décourager. vous faire sortir de l'Église, retourner dans le monde. Hein? Le chien retourne à son vomi. Déjà arrivé chez vous, vous avez eu un chien qui est retourné à son vomi? Ben, moi, ça m'est déjà arrivé. Ce qui l'a rendu malade, il le remangeait. Ben, c'est une très belle image qui est forte, hein? Ce qui nous a fait mal dans le monde, ce qui est en train de nous détruire dans le monde, il y a des gens qui retournent vivre la même chose un jour. Et Jésus utilise cette expression, la Bible utilise cette expression, le chien retourne à son vomi. Quand l'inquiétude nous gagne, nous pouvons rester en paix, nous ne sommes pas livrés à nous-mêmes. Il est un père qui prend soin de ses enfants. Il ne vous délaissera jamais. Il s'assurera que vous ne manquerez de rien, et bien plus encore, il vous bénira au-delà de toutes vos espérances. Les meilleurs jours de votre vie sont devant vous, mais pour voir la fin heureuse du film de votre vie, il faut aller jusqu'au bout du film. Alors, frères et sœurs, je vous encourage, n'arrêtez pas le visionnage en plein milieu. Vous risqueriez de passer à côté du meilleur que Dieu vous réserve. Frères et sœurs, personne n'aime les moments troubles, et pourtant, nous ne pouvons pas leur échapper. Parce que la terre sur laquelle nous vivons, c'est pas la terre que Dieu a voulu créer, c'est la terre que l'homme a voulu avoir sans Dieu, avec toutes ses conséquences. Il y a des gens qui souffrent de toutes sortes d'abus sur la terre, et ça, ça vient pas de Dieu, on sait de qui ça vient. Cependant, dans nos épreuves, on n'est pas seul. Le Dieu de paix est toute joie à notre côté à chaque instant. Psaume 37, 25. Il voit tout ce qui se passe, il ne cesse de nous soutenir. J'ai été jeune, dit le psalmiste, j'ai vieilli. Et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendier son pain. On ne s'appauvrit pas avec le Seigneur. On ne s'appauvrit pas. Nous ne comprenons pas toujours ce qui arrive, ni pourquoi ça arrive, mais une chose dont nous sommes certains, nous sommes plus que vainqueurs à cause de celui qui nous a aimés dès le commencement. L'Éternel marchera devant lui-même, dit Moïse. Il marchera devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point, il ne craint point, il ne t'effraie point. Frères et sœurs, Jésus a dit, Matthieu chapitre 28, verset 20, « Sachez-le, je veux que vous le sachiez, je serai tous les jours avec vous, et ça jusqu'à la fin du monde. Rappelez-vous-le, rappelez-vous-en, méditez-le tous les jours, vous ne serez jamais seul. Jamais. » Et le même esprit qui permettait à Jésus de dire non à toute forme de péché, c'est le même esprit qui habite en vous. C'est son esprit qui habite en nous, frères et sœurs. Quand on dit oui au péché, c'est parce qu'on dit oui volontairement au péché. Le diable a le dos large. À chaque fois que quelqu'un pêche, arrive que j'entends, il m'a encore eu le diable. Mais non, mon œil, hein. Le diable n'a rien à voir là-dedans, hein? T'es un enfant de Dieu, t'as la capacité en Jésus-Christ de dire non au péché. Et si tu dis non au péché, les bénédictions vont suivre. On ne peut pas amener Dieu à être complice de nos péchés. Soit que Dieu se retire, il te laisse aller, ou soit tu viens en repentance. Dans la repentance, tu confesses ton péché. Dieu te prend par la main tout de suite. La main est tendue, la main elle est là, quoi. C'est pas quand tu demandes pardon, Dieu il dit, je sais pas ce que je vais faire encore. Dieu il tend la main. Et mercredi, on a parlé de quelque chose d'important. Savez-vous, le Dieu qui tient l'univers dans ses mains, qui n'a jamais eu de commencement, qui n'aura jamais de fin, il vit au jour le jour avec nous. Moi, c'est une révélation pour moi quand j'ai médité là-dessus. Hein. Vous savez ce que ça veut dire, ça? Que quand je confesse un péché le vendredi, il va me pardonner, tout en sachant que dans un mois, je risque de leur confesser le même péché. Alors, il vit au jour le jour pour être avec moi. On est le 9 juin, il sait que le 29, je risque de commettre le même péché. Il pourrait me dire tout de suite, écoute, arrête d'être confessé. Celui-là, je regarde ma liste, là, il y en a encore 50 fois que tu vas le confesser. Non, au jour le jour. Il est fidèle et juste pour nous pardonner tout péché. Il vit au jour le jour. Il s'abaisse pour vivre au jour le jour. C'est extraordinaire. Hey, je suis en train de parler de Jacques Hulot, je suis en train de parler de Dieu qui tient l'univers dans ses mains. La Bible nous dit qu'il tient les océans dans sa main. Mettez deux gouttes dans une cuillère à soupe, et puis essayez de vous rendre ici en arrière, deux gouttes. Sans regarder, vous allez en échapper une. La Bible nous dit que Dieu tient l'univers dans sa main, et qu'il tient les océans dans ses mains. Et comme on a dit il y a deux semaines, vos noms sont gravés sur le dessus de sa main. Et quand il bénit sa création chaque matin, il voit vos noms. Il voit vos noms, frères et sœurs. Et il sait qu'il va vous accorder la grâce que vous avez besoin aujourd'hui pour traverser vos difficultés, pour traverser, faire face à ce qui vous attend à l'extérieur. Parce que le diable, quand on appartient au Seigneur, le diable, il lâche pas prise, le diable, il chôme pas avec nous. Quand tout notre petit monde est complètement ébranlé en terminant, il nous reste deux fondements solides sur lesquels nous pouvons nous appuyer. Dieu est bon. Et Dieu est fidèle. Il ne nous laisse jamais tomber. Il n'y a pas un seul problème auquel il n'a pas déjà la solution. 1 Corinthiens chapitre 10-13. Pardon. Alors, pendant ces périodes difficiles, accrochez-vous à sa parole, car elle est puissante pour nous fortifier et nous relever. Et je vous termine avec 1 Pierre chapitre 5 verset 10. Rappelez-vous que le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Que toute la gloire revienne à notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Amen.
Je vous invite à vous lever. On va chanter un dernier cantique. La voix de 288 dans la Toile de la Gloire.